Vieilles Branches, une production Nouvelles Écoutes en partenariat avec Radio Nova.
Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, si je peux vous demander?
J'interviewe des personnes de, en général, plus de 70 ans, sur leur parcours, leur vie, leur enfance, ce qu'ils ont appris, enfin, ce que vous faites déjà dans beaucoup de vos livres, en fait.
D'accord.
Voilà.
Pour cet épisode de Vieilles Branches, on est allé rencontrer Hubert Reeves et sa barbe dans son appartement, où s'étalaient absolument partout des revues scientifiques. Alors je sais pas bien pourquoi, mais cette barbe, elle m'avait toujours fait croire qu'Hubert Reeves était immense, et bon, en fait, non. Hubert Reeves, qui était vacciné depuis peu, nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse, nous demandant d'enlever nos masques quelques secondes seulement pour voir nos visages. Et surtout, avant et après l'entretien, il nous a posé plein de questions sur nous, sur l'émission, sur les gens que je rêvais d'interviewer. Bref, si vous le suivez depuis quelques années, vous le savez, Hubert Reeves, l'astrophysicien écologiste, est un infatigable curieux de la vie et des autres. Et c'est pas cette interview qui suit qui va me contredire.
Moi, je voulais vous dire que toute ma famille vous adore.
C'est vrai?
Oui.
Ah, ouais, ça me fait plaisir.
Même mon fils de 9 mois. Et je l'ai trouvé ce matin en train de manger un de vos livres.
Ah bon? Il est précoce.
Ok, il a l'air de s'intéresser aux bonnes choses.
Il a 9 mois?
Il a 9 mois. Il est né pendant.
Ouais.
Pendant le Covid.
Il n'a jamais vu.
Il a vu des gens sans masque, mais pas dans la rue. Ouais.
Oui. Ça va être intéressant de savoir qu'est-ce que ça fait.
Vieille branche chez moi.
Vieille branche.
Une vieille branche.
C'est vraiment bon, une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, vous écoutez Vieille branche. Pendant une heure, je vous emmène chez un homme ou une femme dont les souvenirs racontent notre histoire.
J'ai pris une fois de la cocaïne, ça ne me fait rien.
De tout, de la
je
vie.
Suis encore désirable.
Évidemment que c'est important.
Récolter ces paroles aujourd'hui, c'est aussi précieux qu'absolument nécessaire. Parce que depuis 4 ou 5 ans, chaque année qui passe rend cette citation d'Antoine Gramsci plus limpide, parfaitement adaptée à la drôle d'époque qu'on vit. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et pour les terrasser, ces monstres, ou au moins les tenir à distance, voire même les apprivoiser, écoutez les mots de nos vieilles branches, qui forment ensemble notre mémoire collective. C'est un véritable bouclier.
Ah, vieilles branches !
Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance de leur vie, de l'amour, de la mort, de ce monde qu'ils ont connu et qui n'est presque plus, de leurs souvenirs d'enfants, de leur adolescence, de leurs amis, de leur passion pour l'art, la musique, les mots, la politique, du regard qu'ils portent sur l'époque, sur les jeunes, sur les combats qui se préparent. Parce que la beauté de l'âge, c'est qu'il libère la parole, et c'est ça que vous entendez dans Vieilles Branches. Je suis Marie Misset, et aujourd'hui, je suis dans le salon de Hubert Reeves. Bonjour Hubert Reeves.
Bonjour, bonjour.
Un immense merci à vous de nous recevoir chez vous pour une discussion de poussière d'étoiles à poussière d'étoiles. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un astrophysicien brillant qui depuis 50 ans met le cosmos à la portée de toutes les intelligences en vulgarisant
avec
passion les découvertes les plus anciennes comme les plus récentes sur notre univers. Depuis 20 ans, vous avez aussi fait du combat écologique votre combat, conscient comme peu d'à quel point notre planète vivante est rare, des peu d'options aussi qui s'offrent à l'humanité pour ces prochaines décennies. Vous disiez, il y a peu, à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, La fureur de vivre, dans une rencontre avec les lecteurs du journal suisse Le Temps, qu'à ceux qui cherchent à donner du sens à leur vie, participer à la lutte pour garder la Terre habitable, c'est-à-dire que le sens d'une vie pourrait être, pour quelqu'un qui se demande aujourd'hui quoi faire de la sienne, de sauver la vie sur notre planète, eh bien ça pourrait être un sens qui fonctionnerait. Le sens de la vie, une question qui vous taraude aussi, et sur laquelle on va évidemment revenir. Mais avant tout, Hubert Reeves, je crois que vous êtes maintenant vacciné. Est-ce que vous pouvez me raconter comment est-ce que vous avez vécu l'année qui vient de s'écouler?
Dans une espèce d'incompréhension, en me demandant, mais qu'est-ce qui arrive? On n'a jamais vu ça, ça ne peut pas durer, ça va. Et puis à tout instant, on nous disait, non, nouveau confinement. Et ça durait et ça dure. Et on ne sait pas très bien comment ça va se terminer. On est vraiment dans un... Là, on découvre jusqu'à quel point on ne sait pas. Rien prévoir. Personne n'avait pensé qu'on passerait cette année dans cet état dans lequel nous sommes maintenant, qui est un état de pas savoir, on ne peut pas dire ce qu'on fera dans 2 mois. Et ça n'est jamais arrivé. On est tout d'un coup plongé dans quelque chose qui nous montre jusqu'à quel point nous ne sommes pas très doués pour prévoir, pas très doués pour estimer comment sont les choses. On pensait que tout était installé, que la vie allait plan-plan, tout ça. Et puis tout d'un coup, bang, terminé. On vous dit, vous restez chez vous, vous portez des masques. Et puis, quel sera l'impact? Ben, on ne le sait pas. L'impact, on parlait tout à fait de l'impact sur des petits-enfants, comme votre
enfant. On en parlait avant de commencer
votre enfant. On ne sait pas. Qu'est-ce que ça fait pour, dans le développement des années cruciales, des premières années d'un enfant, qu'est-ce que ça fait de ne pas voir la bouche de sa mère et de sa famille? Moi, je trouve ça extraordinaire jusqu'à quel point on est passé d'un monde qui avait l'air organisé, dans lequel, au contraire, on est complètement comme paumé, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ce n'est pas plus mal dans un sens, parce que ça nous oblige à revoir nos certitudes, à revoir notre mode de vie, et surtout à se rendre compte, pendant qu'il est encore temps, du moins on l'espère, que la planète peut être gardée habitable. C'était le drame déjà depuis des années, sauver la planète, la garder habitable.
Ça, la garder pour les humains habitables,
oui,
parce qu'elle survivra sans nous.
Pour toute la vie.
Oui, pour toute la vie.
Pour toute la vie. Et on n'avait jamais pensé, on sentait que c'était menaçant, on nous parlait de la sixième extinction, tout ça. On y croyait plus ou moins parce que ça avait l'air un peu lointain. Et puis tout d'un coup, on est dedans. Et puis débrouillez-vous. Et puis, ben, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Si vous pensez que c'est nocif, ça ne change rien. Vous devez porter votre masque. C'est ça que je trouve extraordinaire. Comment ça a révolutionné la vie et comment ça nous met devant l'avenir comme dans un grand vide dans lequel on ne sait pas ce qu'on va faire, que va devenir le théâtre, que va devenir la musique. On ne sait pas. C'est ça qui est extraordinaire, je pense. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas plus mauvais parce que ça nous oblige à nous secouer d'une certaine façon.
Vous estimez que c'est peut-être comme une sorte d'avertissement hein?
Peut-être, en tout cas, qu'il est temps d'y penser, qu'on ne peut pas continuellement dire « oui, on verra le réchauffement climatique, oui, on verra la pénurie des matières premières ». Mais là, on est dedans.
On va en venir à la question qu'on pose à tous nos invités, qui est de vous demander quels sont vos premiers souvenirs d'enfance, Hubert Reeves. On va remonter un petit peu avant cette année 2020-2021.
Je me souviens d'une maison de campagne que nous avions au Canada. Je suis d'origine canadienne. Et dans laquelle j'aimais beaucoup aller fouiller dans les livres qui étaient laissés par les oncles et les tantes à la fin de leurs études. Et j'ai des beaux souvenirs de cette période.
J'ai le souvenir qu'un des livres qui vous a particulièrement marqué, voire qui vous a peut-être guidé sur les pas de votre avenir d'astrophysicien, c'est un livre qui vous a été ramené par votre père.
Oui, l'Encyclopédie de la jeunesse. Il est arrivé un jour à la maison avec 12 gros volumes qu'il avait achetés d'occasion, parce que mon père était... La famille était une famille très modeste, on ne pouvait pas se payer des encyclopédies, mais il avait acquis une encyclopédie d'occasion qui s'appelait l'Encyclopédie de la jeunesse, et pour moi, ça a été un ravissement. Il y avait de tout, j'aimais beaucoup les chapitres qui portaient sur des pays étrangers, des villes africaines, des photos de marchés africains, de tout ça.
C'est comme si vous avez acheté Internet, en fait.
Exactement, exactement.
Et pourquoi alors le cosmos? Pourquoi l'univers? Parmi tous ces articles dans l'Encyclopédie de la jeunesse.
Oui, il y avait des articles sur l'astronomie. L'astronomie telle qu'elle était en 1935, il y avait quelques belles images. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été fasciné. Je me souviens d'une photo de galaxie, la galaxie d'Andromède, pleine page. J'étais complètement
obnubilé
ouais. Par cette image. Et c'était très vite pour moi. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? Ça, c'était la phrase qu'on posait aux enfants. Eh bien, tout de suite, je me disais, ben ça vaut la peine. Ça me paraissait être intéressant parce que, oui.
Tellement loin, inconnu,
oui,
poétique, peut-être.
Oui, oui. En tout cas, ça m'obsédait, cette idée de, comme des microscopes aussi. Je me souviens quelqu'un un jour qui m'avait demandé proposé de regarder dans son microscope où il y avait des quantités d'atomes. Et je voyais toutes ces bestioles qui grouillaient dans tous les sens. Et je lui avais dit, mais c'est où ça? Puis il me dit, mais c'est là. Puis je regardais là, puis je voyais un petit rond de métal dans le microscope. Je disais, mais ça, je n'arrivais pas à me faire à l'idée que ce que je voyais, c'était un autre monde, un monde de bestioles
qui était là.
Qui vous était là.
Un peu comme un jeune Gulliver, oui. Impressionné à la fois par ces choses oui. immenses et oui. muscles.
Qui ou bien sont... quelqu'un comme Christophe Colomb qui arrive, qui débarque en Amérique un jour et qui découvre un monde totalement nouveau. Mais là, dans un petit laboratoire, c'est ça qui me fascinait. Tout ça avait l'air bien ordinaire, un petit microscope comme dans les écoles. Vous regardez dedans, puis vous voyez
un
spectacle, un monde. Ouais. Oui. Ça, c'est parmi les beaux souvenirs que j'ai.
Vous êtes la première personne que j'interviewe dans le cadre de ce podcast à avoir vécu la Seconde Guerre mondiale d'aussi loin, puisque vous aviez déjà 7-8 ans quand elle s'est déclenchée. À quoi ça ressemblait les années 40 pour un petit garçon, puis un adolescent québécois?
C'était, comment dire, je regardais beaucoup les cartes géographiques et je regardais les territoires qui étaient occupés, comment les armées d'Hitler avançaient ou reculaient ou tout ça. Ça m'a beaucoup, beaucoup obsédé. Je n'arrivais pas à juger de la gravité de la situation. C'était plutôt comme un jeu. Un jeu que vous regardiez sur les cartes géographiques. Et puis, au départ, on était quand même assez loin, au Canada, mais il y a eu beaucoup des alarmes. C'était des exercices. Le pays s'exerçait parce qu'on savait que les sous-marins, les Allemands envoyaient des sous-marins dans le golfe Saint-Laurent. Et donc, on avait l'impression que c'était quand même pas si loin que ça. Et puis, il y avait évidemment des rationnements. Tout était rationné. On n'a pas mangé de chocolat ou de steak pendant plusieurs années parce que tout ça était requis pour la transporter en Angleterre en préparant l'invasion. Mais c'est que progressivement, c'est surtout à la fin de la guerre quand on a commencé à voir les camps d'extermination, les photos, c'était horrible. Ça m'a complètement bouleversé qu'on puisse se comporter comme ça. Et je me disais, mais comment?
Est-ce qu'avant ça, Hitler était considéré comme un grand méchant ou comme un ennemi politique?
Non, Hitler était au début... Alors, Hitler voulait son objectif, c'était de vaincre l'Angleterre. Et il cultivait de bons rapports avec tous les gens qui avaient des problèmes avec les Anglais. C'est-à-dire les francophones ou les Français au Québec, à cette période, c'était des citoyens de seconde zone. Les Anglais étaient plutôt des colonisateurs, des conquérants. Et donc, Hitler essayait de flirter avec les Québécois pour avoir leur appui. Donc, au départ, c'était pas vu comme un gros méchant. Mmh. C'est seulement quand on a découvert ces choses-là que tout d'un coup, on s'est aperçu que c'était l'horreur.
Mais c'est vrai qu'il l'a aussi fait avec les Irlandais, même avec les Bretons en France.
Ah
ouais. Ouais. Sur les Bretons, c'est une partie assez méconnue de l'histoire. Ce qui marque beaucoup le Québec dans ces années-là, c'est aussi la mainmise de l'Église.
Ah oui.
Parce qu'on ignore assez en France que le Québec était une région extrêmement catholique. Et c'est là-dedans que vous avez grandi, vous.
Oui, c'est ça. C'était bien. Vous voyez, comme on dit, c'est bien. Mes parents étaient des catholiques bien convaincus, qui nous éduquaient dans la bonne religion catholique, et puis l'Église, tout ça. Même si après coup, ça a paru désuet, pour moi, ça a joué quand même un rôle assez positif d'une espèce d'harmonie. Vous voyez, ce qu'on vous enseignait était bien, ce qu'étaient vos parents, le gouvernement, tout ça, on vivait dans un... C'est tout à fait l'opposé d'ici. Ici, vous avez des gens qui critiquent le gouvernement, d'autres qui sont... Vous avez un monde dans lequel un enfant ne voit pas, n'arrive pas à se faire une opinion. Demander à un enfant ce qu'il pense de Macron, c'est impensable parce qu'il n'est pas en mesure de percevoir la situation. Mais là, au contraire, c'est une situation
très favorable, cohérente,
harmonieuse. Mais, et puis, comme il y avait une harmonie, ce qu'on enseignait au collège, c'était ce que mes parents enseignaient à la maison. Il n'y avait pas de conflit.
Il n'y a pas de raison de se poser des questions.
Pas de raison. Mais progressivement, je me suis rendu compte, la chose qui me gênait, c'est qu'on me disait, l'Église, c'est la représentante de Dieu sur la terre, le pape est son représentant, la parole du pape est infaillible. Et je disais, oui, mais qui dit ça? Ben, c'est le pape. Vous voyez, c'est ça qui me gênait. Le pape dit que la parole du pape est infaillible. Vous avez, c'est pas très loin avec ça. C'est pas... À un moment donné, vous commencez à poser des questions et tout d'un coup, ça vous paraît quelque chose qui est une construction, mais une construction qui s'impose à vous et vous dites, est-ce que j'ai envie de...
De rester là-dedans. D'ailleurs, ouais. Vous avez plutôt tendance à... En tout cas, quand vous parliez, je crois, de votre grand-mère qui vous disait à la fin de sa vie, mais comment est-ce que tu peux ne pas croire? Vous disiez que vous enviez sa sérénité, que c'était plus...
Oui, c'est ça. Oui, oui. Quand elle me disait... Elle était mourante elle me disait, ben moi, je sais pas... Je lui demandais comment tu vis le fait d'être... savoir que... Mais elle me disait, moi, j'ai pas de problème parce que j'ai fait plein de gestes qui m'assurent le ciel, c'était ça, les indulgences plénières qui vous assurent le ciel. Ben, je lui disais, j'ai envie d'avoir cette paix, que ces croyances-là te rassurent. C'est facile d'avoir ces croyances-là, mais d'y croire au point de ne pas être angoissé quand vous êtes sur le point de mourir,
c'est autre chose. Vous parlez de l'effet, dans le livre que j'ai sous les yeux, là, dans le banc du temps qui passe, vous parlez de l'effet Howe, A-W-E. L'effet Howe, je ne sais pas comment vous prononcez. Howe. C'est un l'effet d'une sorte de sidération ou devant la beauté de quelque chose qui est mêlée de peur.
Que vous êtes dépassé. Vous êtes dépassé par cela. C'est quelque chose qui vous dépasse. En anglais, vous connaissez l'anglais?
Dites-moi.
Overwhelmed, ça vous dit quelque chose?
Oui, c'est. Mais j'ai justement jamais trouvé la traduction d'overwhelmed. Quand j'essaye, je vois pas ce que ça pourrait être. C'est
le mot qui s'approche le plus, mais je pense pas qu'il soit très bon. C'est sidéré. Sidéré. Et d'ailleurs, le mot sidéré vient du mot sidéral, qui est un coup de tonnerre, quelque chose de céleste, quelque chose qui vous dépasse, qui est le ciel. Le ciel vous tombe sur la tête, c'est un petit peu ça.
Justement, ça vient de là, en fait. Ça vient de même l'espace intersidéral, ça vient de là aussi. Vous n'avez jamais ressenti, vous, les vertiges de l'univers? Je pense à vous, petit garçon, qui regarde une photo de la galaxie d'Andromède.
Oui, je ne sais pas très bien ce que veut dire le mot vertige.
Reprendre ce mot,
A-W-E.
Qui est mêlé de peur. Vous dites qu'il y a une sorte de peur qui est mêlée.
Il y a une sorte de quelque chose qui vous est...
De la crainte.
Qui vous sort de vous-même, dans lequel vous n'êtes pas du tout à l'aise. Vous êtes, sidéré, pétrifié, tous ces mots-là,
Et ça n'a jamais été un de vos sentiments dans l'étude du cosmos?
Ça l'est toujours un peu, oui. Mais pas au point de me terroriser. Je connais des gens qui refusent de se poser ces problèmes parce que ça les
overwhelmed.
Oui, c'est ça. Mais non, moi je suis toujours fasciné quand je regarde dans un télescope et que je vois des galaxies ou des choses comme ça. C'est extraordinaire, c'est un sentiment très étonnant et très étrange, mais pas terrorisant. J'ai toujours envie. Vous voyez, j'ai plein de revues, Ciel et Espace, j'ai plein de revues.
Oui, vous continuez à lire les revues scientifiques.
Oui, c'est ça.
Vous voulez en savoir toujours plus.
Ben oui.
Hubert Reeves convoque souvent quelque chose qui me plaît beaucoup, ça s'appelle la clause du chat. Il a eu un chat dont il était très proche, avec lequel il entretenait de longues conversations silencieuses, tout ça par le regard évidemment. Un chat capable de comprendre et de sentir certaines choses, mais à qui il n'aurait jamais demandé de résoudre un problème de trigonométrie. Car l'intelligence du chat est limitée, tout comme celle des êtres humains, qui ne peuvent pas tout saisir, qui n'ont pas les capacités cognitives d'embrasser la complexité de l'univers. Certaines réponses sont tout simplement hors de notre portée, et c'est une contrainte à prendre en compte quand on est scientifique. La clause du chat.
Donc. la perception, vous l'avez dit très rapidement tout à l'heure, mais la perception que nous avons de l'univers, en tout cas que les scientifiques ont de l'univers, est-ce qu'elle a beaucoup changé depuis votre enfance ?
Oui. Il y a un changement fondamental. Je ne pense pas que tous les physiciens seraient d'accord avec ce que je dis. Mais je vous dis, moi, ce qui m'a frappé le plus, le changement le plus radical, c'est que quand j'étais enfant, on avait ce qui était l'opinion, la vision du monde des scientifiques à cette époque, c'est-à-dire l'univers est éternel. C'était la vision d'Aristote, d'ailleurs. L'univers éternel et inchangeant, c'est quelque chose de fixe, c'est quelque chose d'installé pour l'éternité. Et en 1965, c'est même pendant ma vie, il y a eu ce phénomène extraordinaire qui est la découverte de ce qu'on appelle le rayonnement fossile et qui nous montre que l'univers a un âge. Un, l'univers a un âge, c'est-à-dire il n'a pas toujours existé. Et deux, il a une histoire. Il n'est pas du tout fixe et inchangeant. Au contraire, c'est plutôt quelque chose qui est en évolution, qui a une histoire. Et cette histoire, en gros, c'est la construction de la structure. L'univers des premiers temps n'a aucune structure. L'univers, depuis aujourd'hui, a énormément de structures, des galaxies, des étoiles, des planètes, des gens.
Des
atomes. Tout ça, nous sommes dans un contexte qui est un contexte mouvant dans lequel il y a des évolutions. Et justement, ce dont vous disiez tout à l'heure à propos de ce qui est important aujourd'hui, une cause qui a de l'importance, c'est de garder la Terre habitable, c'est un événement qui s'inscrit dans une structure historique. Ce n'est pas quelque chose de fixe dans lequel, comme au théâtre. Au théâtre, vous avez la scène, ça ne bouge pas. Les événements se passent dans la scène. Mais dans l'univers, c'est tout l'ensemble, y compris la scène elle-même, qui évolue.
Il est en train de changer en permanence. Ouais. Et ça veut dire aussi que les notions de temps qu'on a dans notre cerveau limité s'appliquent un petit peu à l'univers.
Ah oui, totalement. Il s'applique. Nous vivons un univers qui a une histoire, qui se raconte comme l'histoire de France.
J'aime beaucoup ce que vous appelez, j'y viens en parlant de cerveau limité, la clause du chat.
Ah oui.
La clause du chat, c'est la compréhension que notre
que nous
intelligence
sommes...
est un petit peu limitée, qu'on peut pas.
Que nous sommes limités. On a pris longtemps pour acquis que nous sommes capables de connaissances infinies, mais c'est faux. La connaissance, elle est née dans un cadre darwinien, c'est-à-dire manger et ne pas être mangé. C'est ce qui a permis à nos ancêtres de survivre à une période où ils étaient très mal armés pour exister, mais ils ont eu l'intelligence, j'appelle un cadeau de la nature, j'aime bien mettre des termes avec des guillemets, un cadeau de la nature, et en même temps, nous sommes menacés, justement. Et c'est comme si la nature nous avait dit, je vais vous faire un beau cadeau, mais débrouillez-vous avec. Et c'est ça, je pense, qui est la question. Et pourquoi il y a ce que nous appelons le PFH? Vous vous souvenez de ce que c'est? Vous l'avez vu, le PFH, non?
Le PFH?
Le PFH.
Non, je ne sais pas
ce que c'est.
Vous savez ce que
c'est?
Non.
C'est le putain de facteur humain.
Je ne m'y attendais pas. Le putain de facteur humain.
C'est ce qui fait que les êtres humains sont incapables de gérer correctement leur intelligence, mais passent leur temps à se mettre dans des situations qui les menacent eux-mêmes. Alors, vous dites pourquoi? Eh bien, parce que ils veulent faire de l'argent, ils veulent du pouvoir. Mais comment ça se fait que, se rendant compte que ces objectifs-là les menacent, ils ne sont pas assez intelligents? Mais ils le sont, mais ils commencent maintenant. Ça, c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a cette évolution de l'écologie, finalement. C'est tout le mouvement écologique qui consiste à dire « Attention, vous êtes sur une mauvaise piste, mais c'est pas vite et c'est pas même sûr qu'on va réussir. »
Mais j'ai l'impression que vous donnez une réponse, vous, à cette question qui est que au putain de facteur humain, c'est que l'humain a 2 ans. Vous faites le parallèle avec les enfants de 2 ans qui cherchent à pousser les limites, repousser les limites et qui attendent quelque part un peu des cadres pour savoir où leur puissance s'arrête.
Oui.
L'humain n'est après tout peut-être qu'un enfant de 2 ans sur la planète.
Certainement qu'on peut dire ça.
C'est en tout cas drôle parce que Colline Serrault, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui est la réalisatrice de La Belle Verte, c'est un discours qu'elle tient aussi, qu'on est juste pour l'instant des toutes petites personnes qui savent encore.
Et qu'il faut qu'on s'assagisse avant de disparaître. Ah ouais. C'est tout notre drame.
Voilà. Mais bon, si on peut atteindre les 10-15 ans avant de disparaître, ce serait quand même...
Oui, mais quand même personne ne connaît l'avenir.
En tout cas, cette clause du chat qui dit que notre intelligence est limitée et qu'elle ne peut pas embrasser l'univers quelque part, est-ce que c'est réconfortant comme clause, presque ?
C'est réaliste. Moi, je la vois comme réaliste. Si on se place dans le cadre darwinien, les animaux, les avantages adaptatifs sont toujours là pour permettre de survivre. La principale chose, c'est la rage de vivre, c'est-à-dire nous avons envie de vivre, tous les animaux, le cœur, votre cœur bat continuellement, nous avons cela. Ça, c'est un fait. Moi, j'aime bien partir des faits. La vie est extrêmement puissante. La volonté de vivre est fantastiquement puissante sur la Terre. On en trouve partout, jusqu'au fond des océans, jusque dans la stratosphère. Nous constatons d'abord, j'aime bien prendre ça comme une base avant d'en discuter, parce que quand on en discute, on brouille un peu la façon d'en parler. Les gens qui disent c'est Dieu, c'est le hasard. Avant de se dire d'où ça vient, la première chose, c'est de constater la puissance que cela a. Et cette puissance, justement, a pour effet de nous amener à développer des moyens de survivre. Et en particulier, mais le PFH fait que ça n'est pas garanti. On aurait pu penser, a priori, que, étant donné toute cette puissance de la vie, elle aurait pu se développer de façon à se protéger, que ce soit... Or, ça ne semble pas être le cas. Quand vous regardez le développement des arsenaux nucléaires, ça ne va pas dans le sens d'une nature qui serait pas en mesure de se détruire et qui ne serait pas confrontée à la difficulté de ne pas se détruire. C'est là qui est, pour moi, toute la difficulté.
Pour revenir sur des détails biographiques de votre vie, Hubert Reeves, vous êtes parti du Québec justement au moment de la Révolution tranquille.
En 60. Oui, 60.
Mais avant, vous avez étudié aux États-Unis.
Oui, j'ai
vous
passé beaucoup de temps aux États-Unis.
Travaillé notamment avec la NASA, ce qui n'est pas rien, quand même. Cette Révolution tranquille, elle a diminué l'importance de l'Église dans la société québécoise.
Totalement. Ouais. C'est presque rien. S'il n'y reste presque rien, je me souviens quelqu'un qui dit, quand il y a souvent cette discussion des prêtres qui veulent se marier. Ça, c'est une vieille revendication de l'Église catholique. Et quelqu'un avait dit un jour, aujourd'hui, il n'y a plus que les curés qui veulent se marier. Mais ça décrit bien l'évolution. En parallèle, en même temps, avec le taux de mariage qui tombe, il y avait des curés qui se révoltaient.
Parce qu'ils ne pouvaient pas se marier. Et ça, c'est au Québec. Mais elle a eu d'autres conséquences, cette Révolution tranquille, je crois, notamment sur votre carrière universitaire. Et c'est pour ça que vous êtes parti en France.
C'est une des raisons. J'étais inquiet de voir... La Révolution tranquille, c'est le moment où les francophones ont commencé à réclamer leurs droits, ce qui était valable parce qu'ils étaient des citoyens de seconde zone. Les Québécois, c'était les femmes de ménage ou les concierges. Tous les gens qui étaient quelque part importants, c'était des Anglais. Et la Révolution tranquille, c'est le moment où les Québécois se sont décidés à réagir et à imposer leurs droits, ce qu'ils ont fait en grande partie, parce que ça n'est plus vrai maintenant. Il y a une harmonie entre les deux. Par exemple, il y a une université française, qui est l'Université de Montréal, où j'enseignais, où j'ai étudié, et puis il y a McGill, qui était l'université anglaise. Quand j'étais enfant, l'université anglaise, c'était vraiment anti-français. Aujourd'hui, il y a des cours dans les deux langues. Mais je me souviens qu'à cette période-là, il n'était pas question de donner. Vous voyez, c'est cette évolution-là qui a eu lieu, qui a eu pour effet qu'aujourd'hui, les Québécois ont retrouvé une certaine dignité, un certain droit d'exister. Et ça, c'est une chose positive. Et si, un des problèmes principaux, c'était la puissance de l'Église. La puissance de l'Église qui imposait, par exemple, vous ne pouviez pas publier un livre au Québec sans la permission de l'évêque. Vous voyez? Bon, ça, c'est ce qu'était la France il y a quelques siècles. Mm. C'est ce qu'était le Portugal. Ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé au Portugal avec Salazar. C'est l'Église qui... L'important, c'est le ciel. C'est la façon de l'Église, à cette époque, d'obtenir l'obéissance. C'est-à-dire une sorte de façon de dominer les gens. Mm. Et ça a eu un effet très positif. Mais ce qui m'inquiétait, c'est que ça, c'est quelque chose que j'ai souvent vu. Le nationalisme n'est pas très loin du racisme. Ça va assez facilement de l'un vers l'autre. Quand une communauté, tout d'un coup, reprend ses droits, elle a la tentation de se comporter d'une façon raciste envers les autres. Bon, ça, c'est encore du PFH. Eh bien, ça, à cette période, je me souviens, j'enseignais à l'université, et il y avait d'autres membres de l'université qui disaient « Maintenant, il faut que tous les livres qu'on recommande à nos étudiants soient des livres en français. » Et moi, je disais « Ça, c'est absurde. C'est vraiment la plus mauvaise idée que vous pouvez avoir. Notre devoir, c'est de donner aux étudiants ce qu'il y a de mieux pour devenir de bons professionnels. Si on les oblige à avoir que des livres français, comme il y a un livre français pour 10 livres anglais, c'est certainement le mauvais choix. Mmh. Il y a toutes les chances que le meilleur livre ne soit pas le livre français, simplement par le nombre.
Statistiquement.
Statistiquement, mmh. Oui, c'est ça. Et puis, on voulait avoir un laboratoire avec un accélérateur, et les gens disaient, oui, mais... alors, ils nous demandaient de nous associer avec les Anglais, mais eux disaient, oui, mais quelle langue on va parler dans ces laboratoires? On va parler anglais, évidemment. Quand vous êtes en Amérique, vous avez 10 fois plus, d'anglais que de français. D'imposer que la langue soit la langue française, c'est évidemment limiter forcément ce qui va se passer. Donc, ça me fatiguait, ce truc-là, cette espèce de mouvance un peu nationaliste. Et
bizarrement, vous êtes parti en France.
Alors, non, je suis... J'ai eu une invitation pour aller enseigner en Belgique.
Caltech. Ah non, en Belgique.
Oui, j'avais été. Oui, j'ai eu une invitation pour passer un an en Belgique, ce que j'ai fait avec ma famille. Et puis après, à la fin de l'année, on avait commencé des travaux de recherche, donc ils m'ont proposé de rester une autre année. Et puis une autre année, puis là, l'Université de Montréal a dit, ben là, t'exagères. Et puis, bon, ben, j'ai fait un compromis, c'est-à-dire, j'allais tous les ans, 2 fois par année, passer un mois au Québec pour enseigner, et puis je revenais en France. C'est comme ça que je suis arrivé à rester ici. Mais j'étais content de venir en France. Je savais que je voulais venir en France, mais je ne voulais pas venir pour une semaine. Vous savez, on va faire la Belgique, on va faire le Portugal,
on va faire le Machu Picchu.
Oui, c'est ça. Alors là, un an, je me suis dit, ben là, j'ai le temps de voir un peu le pays, puis aussi, j'ai enseigné en Allemagne, j'ai enseigné en plusieurs pays, et ça m'a permis, comme ça, de rencontrer plusieurs groupes.
À l'époque, vous étiez déjà marié et papa?
Oui, j'avais déjà 4 enfants.
Ouais, votre famille suivait toutes vos pérégrinations?
Ma femme était tout à fait d'accord. On est parti du Canada, on a vendu tout ce qu'on avait, on n'a gardé que la voiture parce que je savais qu'en France, il n'y avait pas de conduite automatique à cette époque. Moi, j'étais pas habitué. Donc, tout ce que j'ai amené, c'est la voiture. Et la voiture, tout ce qu'on avait gardé était dans la voiture, plus les 4 enfants,
plus les 4 enfants sur le toit.
Ouais. Et non, c'est ça. Mais ça, j'étais content parce que j'aimais pas l'idée de voir toute ma vie devant moi comme ça tout d'un coup.
Ça, pour le coup, plus que les galaxies, ça vous angoissait, l'idée d'avoir la vie toute tracée.
Oui, tout à fait. Ça m'angoissait beaucoup parce que je me disais, j'ai pas envie de passer ma vie dans un tout petit monde comme ça.
À regarder seulement cet univers immense.
Et puis vivre dans cette ambiance francophone un peu nationaliste qui me déplaisait beaucoup aussi.
Il vous reste quoi de Québécois un certain optimisme, peut-être.
Beaucoup le Québec et j'y retourne avec plaisir. Je trouve que.
Dans votre caractère, je veux dire, est-ce que.
Alors, il y a deux choses. Ce que je reproche au Québec, c'est pas reproche, c'est d'être un peu provincial, justement. Ce que je reproche à la France, c'est que les universités sont très mal gérées. Comparé aux États-Unis, les États-Unis. Quelqu'un m'avait dit un jour, si tu vas en France et que si tu vois deux scientifiques qui discutent ensemble, c'est le maître et l'élève. Il n'y a pas du tout ce sens communautaire aux États-Unis. Tout le monde
recherche,
travaille ensemble. On allait manger ensemble. Ici, il n'y a pas question que vous soyez invité à manger avec un noble professeur. Ils ont leur petit coin à eux. Vous voyez, les professeurs sont... C'est un peu une caste. Oui. C'est une caste. Il n'est pas question de se moquer d'eux, d'être un peu comme ça. Non, voilà, vous êtes... Attention.
D'ailleurs, vous, un de vos papiers qui a fait date, vous l'avez écrit avec deux de vos étudiants.
C'est ça.
Ouais. Mais en France,
oui.
Déjà.
Oui.
Et 1965, en France, vous avez eu l'impression d'arriver... Donc, ça veut dire que vous avez vécu les années 68, 69, oui. 70 en France. Est-ce que c'est quelque chose qui a eu de l'impact sur votre vie?
Ça a eu de l'impact parce que j'ai vu qu'effectivement, cet esprit de caste avait passablement diminué. Je comparais avec la Belgique, où la Belgique, ça n'a eu aucun effet, c'est resté le même. Et, tandis qu'ici, bon, ça a donné des choses qu'on peut critiquer, mais qui était une sorte d'insolence un peu américaine, qui est importante pour les rapports. Il ne faut pas des rapports d'adoration où on met les professeurs sur des chaires. Et puis, non, c'est bien d'avoir des rapports un peu plus consensuels.
D'ailleurs, votre travail de vulgarisateur, j'imagine, il correspond un petit peu à ça aussi, à cette volonté de ne pas laisser... le savoir ou la connaissance dans les mains et dans les têtes de gens d'une certaine élite. Comment ça vous est venu? Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de mettre votre connaissance en commun avec le plus grand nombre?
Je vais vous dire la vérité, parce que je trouvais que les vulgarisateurs ici, ils étaient très mauvais.
Ben, c'est une bonne raison.
Ils étaient...
On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Ben, oui. Voilà. Ils étaient dans la culture des grands mots qui impressionnent. Vous voyez, de dire, d'enseigner d'une façon qui laisse voir que vous êtes très savant.
Mais que vous concédez à donner un tout petit peu de votre savoir.
Exactement. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils m'ont détesté. Après ça, c'était... Mais à un moment donné, les gens m'en voulaient. D'abord parce que j'avais beaucoup de succès avec mes livres, ce qu'ils n'avaient pas. Et puis, la raison était justement que...
Je
n'employais pas ce langage ampoulé qui était souvent utilisé. Que c'était pas se dévaluer que de parler simplement et de ne pas employer l'argot traditionnel.
Et en quoi est-ce que vous croyez que c'est utile pour l'humain, pour moi, par exemple, de comprendre un tout petit peu mieux, dans la mesure de mes limites, l'univers qui m'entoure?
Oui. Alors, il y a deux raisons. La première raison, je crois que c'est une demande des êtres humains, c'est la question des origines. Ça a toujours beaucoup d'intérêt, des origines, parce que ça vous remet dans un peu votre histoire, ça vous remet un peu à votre place. Et les gens ont besoin de ça. On le voit, par exemple, les Africains, les anciens esclaves, sont toujours très intéressés. On aime bien savoir d'où on vient, dans quelle lignée on vient. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la science est de plus en plus dans la société, dans la vie aujourd'hui. La science joue un rôle de plus en plus important. Question d'énergie, question de tout ça. Et il se pose des questions, par exemple, le problème du nucléaire. Le problème du nucléaire, c'est un problème qui devrait, il l'est pas, mais ça, c'est le gouvernement qui est trop dictateur, il devrait être débattu. Et c'est important pour débattre le problème du nucléaire d'en connaître quelque chose. Donc, il y a un devoir de société de donner à ceux qui s'y intéressent des connaissances scientifiques. D'abord parce que la recherche, ça se paye avec les deniers du public, Donc, c'est normal, c'est renvoyer l'ascenseur, que si quelqu'un s'intéresse à l'astronomie, s'il ne s'y intéresse pas, c'est son affaire. Mais s'il s'y intéresse, c'est, je considère que c'est un devoir que, qu'il y a des gens qui puissent répondre à ces questions de science et d'origine. Pour moi, c'est la chose la plus importante.
Et vous avez d'ailleurs des lecteurs qui vous ont remercié de les aider à vivre presque.
Oui,
vous avez cet homme qui vous dit que la mort le terrifiait et qu'en fait, apprendre qu'il n'était...
Oui.
Que ses atomes continueront sa vie sans lui, finalement.
Oui, ben oui ça lui remonte le moral.
Ça fait du bien.
Et puis, une autre histoire, c'est une conférence que je donnais. Et à la fin de la conférence, je vois arriver un homme dans un fauteuil roulant, un homme complètement cassé en morceaux, vous voyez, comme vous voyez dans les fauteuils roulants, comme ça, et qui titubait et qui bégayait et qui m'a dit... Si ce n'était de ce que vous nous enseignez, il y a longtemps que je me serais suicidé. Ben, c'est impressionnant, quelqu'un qui vous dit ça, parce que lui trouvait que sa vie était complètement nulle. Mais de savoir toute cette histoire de l'origine, de nos origines, tout ça, tout d'un coup, ça lui a donné de l'énergie pour vivre. Vous voyez, ça peut même aller jusque-là.
Qu'il appartenait à un grand tout. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire grand tout?
Ben, ça, c'est une question d'opinion personnelle. Moi, je pense que oui. Mais merci. Tout le monde n'est pas de cet avis. Mais non, moi, je suis de cet avis. C'est-à-dire qu'on fait partie d'un grand ensemble qui est tout ce mouvement de l'organisation de l'univers, de la structure de l'univers. Le fait qu'aujourd'hui, on sache que l'univers des premiers temps est un univers sans aucune structure, qu'aujourd'hui, il y a eu dans cette histoire de l'univers une structuration progressive dont le front le plus avancé à notre connaissance, c'est l'intelligence humaine, parce que la structure la plus intelligente sur la Terre, peut-être sur d'autres planètes, il y a autre chose, on ne sait pas, mais la structure la plus capable, la plus efficace, la plus intelligente, qui est capable de comprendre la structure de l'univers, de photographier des galaxies. C'est toute la puissance de l'être humain. La médecine, tout ça, ça fait partie, pour moi, c'est cette histoire de l'univers qu'on peut résumer en disant c'est la matière qui s'organise. Et qui atteint aujourd'hui des niveaux très élevés, mais qui est menacé et qu'il faut sauver. Vous voyez, si on disait en 3-4 phrases, on pourrait dire comme ça, eh bien, ça fait partie. Il est membre de cette classe la plus avancée et qui fait elle-même progresser. C'est pour moi le domaine qui progresse, qui est à la pointe, c'est l'art. C'est Mozart, c'est Beethoven, ce sont les gens qui ont développé le plus richement la structuration potentielle de la matière.
L'idée que l'organisation la plus sophistiquée de la matière dans l'univers, à notre connaissance en tout cas, ce soit les cerveaux des artistes, c'est quand même une des meilleures idées, une des plus poétiques que j'ai entendues depuis le début de Vieille Branche. Hubert Reeves, de manière totalement subjective, il a pour représentation ultime de cette conviction la symphonie pastorale de Beethoven. Il dit qu'il trouve ça incroyable quand elle est jouée, que toute la formation des musiciens, que celle des luthiers, que leur travail ensuite mène à ce moment d'éternité. Il y a 4 ans, un chef d'orchestre avait même fait participer Hubert Reeves en lui faisant dire des textes après la symphonie pastorale. Le chef d'orchestre d'ailleurs qui avait eu ces mots qui rappellent ceux d'Hubert Reeves, « Tout ce qui parle du cosmos peut se lier facilement à la musique ».
Pourquoi sauver l'humanité? Est-ce qu'elle le mérite? C'est une question qui se pose. Si on n'est même pas capable de
sauver nous-mêmes.
De sauver nous-mêmes et de construire des camps d'extermination, oui, on pourrait dire, ben, tant pis pour elle si elle veut s'éliminer. Alors moi, je pense qu'il y a, je cite 3 éléments qui sont importants, qui font que les êtres humains ont fait des choses qu'aucune autre espèce n'a fait. Et ces 3 choses-là, c'est l'art, évidemment. C'est Beethoven, Mozart, vos favoris. C'est la science. c'est d'avoir découvert les microbes, d'avoir découvert les galaxies, d'avoir fait des télescopes qui sont capables de vous montrer des objets qu'aucun humain n'a jamais vus. Et la troisième, que je trouve la plus importante et peut-être la plus importante, c'est le développement pendant l'évolution
pas de la civilisation, mais de l'empathie.
L'empathie, voilà. C'est le fait que les êtres humains souffrent de voir les autres souffrir et sont capables de s'en occuper. Et d'organiser des structures, d'avoir fait des législations qui, par exemple, la Croix-Rouge, Amnesty International, ou toutes ces choses-là, que des gens soient portés d'eux-mêmes à dire « il faut faire quelque chose parce qu'il y a des gens qui souffrent ». Ça, c'est pour moi la plus belle qualité. Ça existe chez certains animaux, mais pas beaucoup. Ça existe chez les baleines, on parle de... mais ça n'existe pas beaucoup chez les guêpes ou les moustiques. Mais en tout cas, c'est venu spontanément dans l'évolution darwinienne.
Et vous êtes convaincu que l'empathie gagne en puissance dans l'histoire humaine?
Alors, est-ce que vous connaissez les œuvres... comment ça s'appelle? C'est Tinker. Tinker, j'en parle dans mon livre... La richesse de vie. C'est qu'il montre, chiffre à l'appui, c'est là que ça commence à être sérieux, que l'humanité est de moins en moins violente. Quelle est la probabilité de mourir
d'une mort violente
dans votre vie? À Rome et un peu en Égypte, c'est 5%.
5% seulement, j'aurais cru que c'est...
5%. Aujourd'hui, c'est un dixième de 1%. C'est-à-dire que la probabilité de mourir de mort violente est diminuée de 50 fois. Et elle dit que...
Partout dans le monde? Pas seulement en France ou dans
non,
les...
Non, à l'échelle mondiale. Non, ça n'a de valeur que si c'est à l'échelle mondiale et moyennée sur des périodes assez longues. Mais regardez la guerre de Troie, par exemple. On est habitué à la guerre de Troie. Qu'est-ce qu'on fait à la guerre de Troie? On tue tout le monde. On ne fait pas de prisonniers à cette période. Les femmes, les enfants, les bébés, tout le monde. La guerre, c'est la guerre. Regardez dans la Bible, c'est pareil. Vous regardez Sodome et Gomorre. Dès qu'il y a un petit problème, on tue tout le monde. Aujourd'hui, ça ne passera plus.
Et vous croyez que cette empathie qui va en grandissant, elle a un rapport, par exemple, aujourd'hui avec... le fait que ça y est, la conscience écologique, on peut le dire, a pris de la place et de l'espace.
Oui, bien sûr. Et regardez le sort des femmes, par exemple. Regardez quel était le sort des femmes chez les Romains et regardez aujourd'hui.
Oh ben même regardez il y a 60 ans et regardez et maintenant.
C'est énorme.
C'est déjà beaucoup.
Ça a beaucoup changé. Il y a presque plus d'esclaves. Il y en a encore, mais ils sont blâmés. Personne ne revendique d'avoir des esclaves. Vous voyez, il y a une évolution de la sensibilité sociale. Ça ne veut pas dire que les êtres sont meilleurs. Ils ne sont pas meilleurs. Dans les bonnes conditions, ils feront exactement... Les nazis ont fait exactement la même chose que ce qu'on faisait à Rome. Mais pourquoi? Mais parce que c'était socialement admis. Mais ici, ça ne serait pas socialement admis. Mais ça, ce sont des facteurs, pour moi, qui laissent penser... Moi, je suis aussi un peu sceptique. J'aimerais bien que... Mais quand je vois des éléments comme ça, je me dis, ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles, espérons que ce soit... Mais les arguments qu'ils donnent sont chiffrés, et généralement, les arguments chiffrés, c'est assez sérieux.
Et la jeunesse qui s'empare des questions climatiques, c'est des bonnes nouvelles aussi?
Pour moi, oui.
Vraiment, c'est quelque chose qui vous...
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Donne de l'espoir?
Oui.
Pour nous? Parce que pour vous...
Non, pas pour moi. Mais pour mes enfants, peut-être, je pense qu'il y a des tas de bonnes nouvelles. Et c'est une des choses que je reproche au milieu d'informations comme les journaux à la télévision, c'est qu'ils parlent trop de ce qui va mal et pas assez de ce qui va bien. Et ça a pour effet que les gens ont l'impression que ça va mal et que les enfants développe une sorte de morosité. Vous imaginez, c'est très dur d'apprendre que...
Le monde va s'effondrer.
Tout va s'effondrer. Je pense que, d'abord, l'avenir est inconnu. Est-ce qu'il y aura un collapse? On n'en sait rien. D'autre part, il y a des signes qu'il y a des choses qui s'améliorent et que le plus important, c'est d'avoir un climat tonique, c'est-à-dire l'impression qu'il y a des choses qui vont bien et des choses qui vont mal. Ça, c'est un climat de lutte. Mais si vous dites que tout va mal, il n'y a plus de lutte et les gens démoralisent.
Vous avez écrit dans ce livre, Le banc du temps qui passe, une lettre à un enfant qui naîtrait aujourd'hui. Elle se termine sur des mots qui me semblent, je vais vous dire la phrase, tâche d'être à la hauteur de ta destinée. C'est beaucoup, c'est beaucoup pour un enfant d'être à la hauteur de sa destinée.
Ben, ça veut dire, dans ce cadre-là, de se tenir loin de l'horreur. C'est-à-dire, si vous êtes invité à participer à OSS, par principe, vous dites non, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui est très difficile, parce que nous, ici, c'est facile de dire non. Mais si on vous disait demain que si vous ne votez pas pour Le Pen ou pire, mais des nazis, vous perdez votre travail, votre maison, vous êtes dans la rue, c'est pas facile. Imaginez-vous que vous seriez coincé devant ça. Ben, je crois qu'il faut le dire aux enfants, c'est pour ça que je le disais, c'est qu'il faut leur rappeler leur destinée dans un sens qui est membre de la communauté humaine. Donc c'est une responsabilité et c'est surtout une responsabilité de ne pas se joindre à l'horreur. C'est déjà la première chose. Ensuite, ce que vous faites, bon, ça dépend de vos talents. Moi, j'aime pas que... Dites-nous ce qu'il faut faire, non. Il ne faut pas dire ce qu'il faut faire. Il faut convaincre chacun qu'il faut faire quelque chose et quitte à lui de choisir ce qu'il veut.
À la mesure.
D'abord, dans sa mesure, d'abord de ce qu'il sait faire et ensuite parce qu'il sera beaucoup plus fier de l'avoir fait que si simplement il a obéi. Voyez, c'est ça qu'il faut éviter et qui se passe beaucoup dans les lycées maintenant, paraît-il. Beaucoup de lycées disent vous nous considérez comme si on devait vous obéir.
Ça ressemble un petit peu, mais c'est mon fond catholique à moi qui ressort, à la parabole des talents, ce que vous dites.
Ah oui, tout à fait. C'est la parabole des talents. Oui, il n'y a pas que des mauvaises choses chez les catholiques.
Et on parlait de lettres à un enfant. Qu'est-ce que vous avez transmis à vos enfants de plus important?
Pas tellement. Je ne crois pas tellement que ce soit ce que l'on dit. C'est plutôt ce qu'on fait. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Par exemple, pour que les enfants aiment la campagne, c'est pas la bonne idée, c'est pas de leur faire des discours sur la campagne, c'est de les amener dans la campagne et de leur montrer que vous aimez ça. Et ça parle beaucoup plus que regarde la campagne, tout ça. Non, vous les amenez et puis ils sentent, les enfants sentent, ben votre... C'est une fille ou...
Un petit garçon.
Un petit garçon. Il a quel âge?
9 mois.
9 mois, il est un peu jeune, mais il sent beaucoup ce que les parents sont. Et ce qui l'impressionne beaucoup plus que ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font.
Vous citez beaucoup Albert Camus, je trouve,
oui,
de
bien.
Manière générale.
C'est quelqu'un
générale.
Que j'aime bien, bien que je n'aime pas du tout sa philosophie ex-nihiliste.
Ouais.
Il est tout à fait dans l'esprit de Nietzsche ou de Schopenhauer. Mais son courage... qui est aussi celui de Nietzsche.
Il y a des êtres qui justifient le monde, qui aident à vivre par leur simple présence. Est-ce que c'est par autour de cette phrase que vous avez essayé en partie de construire votre vie?
Non, je ne la connais pas depuis longtemps.
Ah,
je l'ai découvert assez récemment, mais je l'épouse tout à fait. Je pense que ça devrait être un garant ou un mur de protection de savoir que c'est ce qu'on disait souvent à des nazis. On dirait que vous le regretterez beaucoup. Et évidemment, c'est-à-dire le fait de ne pas être fier socialement de ce qu'on fait est tôt ou tard une raison d'être malheureux, je pense. Même si vous gagnez beaucoup d'argent, si vous êtes méprisé par vos enfants.
Vous êtes heureux, Hubert Reeves?
Ça, c'est beaucoup dire. J'ai beaucoup de moments de bonheur. J'ai pas que des moments de bonheur, j'ai aussi des moments Je ne peux pas dire que je suis heureux, mais pour moi, ça compte beaucoup. En tout cas, ce qui compte beaucoup, effectivement, c'est d'être estimé de ma famille.
Ça compte beaucoup.
Oui. Ça, j'aime beaucoup. Je ne supporterais pas d'être vu comme un scélérat ou un salaud par ma famille.
Juste votre famille?
Oh, n'importe qui. Par n'importe qui. Ce sentiment est un sentiment qui doit être extrêmement difficile à vivre. Peut-être pendant un certain moment, peut-être que, par exemple, pour les nazis, pendant le régime nazi, ils pouvaient être heureux, encore que je ne sais pas, parce que vivre avec cette idée que vous êtes un dégueulasse, ça, pour moi, ça doit être très, très difficile.
J'ai deux dernières questions, Hubert Reeves. La première, oui. c'est de savoir si c'était mieux avant.
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas. Vous n'êtes pas partisan de dire que le meilleur est à venir.
Ah non, j'en sais rien. J'en sais rien. Puis ça me paraît difficile même à comparer, parce que c'est surtout un facteur personnel, je pense. C'est un facteur. Vous allez en Afrique, vous voyez des gens qui sont très pauvres et qui chantent beaucoup. Les pays où il y a le plus de suicides, c'est la Suède et le Canada. Ça dit quelque chose, ça. Ça dit qu'être heureux, c'est pas si simple.
Enfin, le Canada, je crois que c'est beaucoup les... En tout cas, dans les communautés autochtones...
Dans les communautés autochtones et chez les adolescents. Les adolescents. Il y a deux régions piques, les adolescents et les 50 ans, à peu près. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, si je peux vous demander?
Est-ce que c'était mieux avant?
Oui.
Je pense que le futur, c'était mieux avant.
Le futur, c'était mieux avant.
Je pense que c'est difficile de grandir et je trouve que, personnellement, j'ai déjà grandi, j'ai plus de 30 ans, mais je trouve que c'est difficile, très difficile pour des gens entre 10 et 20 ans de grandir dans un monde où on n'arrête pas de leur dire que ça va aller de mal en pis. Je trouve que c'est très difficile de se construire là-dedans, que ça donne aussi des opportunités peut-être de repenser les choses et d'avoir des vies passionnantes et riches, mais je trouve ça difficile.
Oui, ça c'est sûr.
Ça dure.
Oui, et le problème du chômage est aussi très, beaucoup plus difficile. Moi, quand j'étais étudiants, on était invités à aller passer faire des stages dans des universités pour voir si on n'avait pas envie d'aller enseigner là. J'en ai eu au moins 3-4. Maintenant, les jeunes n'ont plus ça du tout. Ils passent des années à faire des post-docs, à attendre d'avoir...
À trouver un poste.
Des postes et tout ça.
Donc, je trouve que l'avenir, je ne sais pas si dans nos vies de tous les jours, je ne suis pas sûre du tout. En tant que femme, je pense que ce n'était vraiment pas mieux avant, mais...
Si vous avez un exemple de quelque chose qui est mieux maintenant, non?
C'est les femmes, bien sûr.
Oui, c'est ça.
Et même mieux maintenant qu'il y a 5 ans ou 10 ans.
Oui, ça, c'est une amélioration très nette.
Ça, c'est sûr.
Que les gens s'expriment, les MeToo, tout ça, je trouve ça très bien.
Et j'ai une dernière question, Hubert Reeves, même si je crois que je connais la réponse à force de vous avoir lu, c'est est-ce que vous avez peur de la mort?
Oui, sans doute.
Sans doute.
Si je dis la vérité, je dirais...
J'ai l'impression que ce qui vous embête beaucoup, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer après.
C'est ça, c'est ça. C'est ce côté totalement inconnu. Puis à mon âge, c'est pas loin. Hein. C'est au plus 5 ou 10 ans. Mais de savoir que dans 5 ou 10 ans, je n'ai pas la moindre idée de où je serai, si je suis quelque part, ce qui est la question. Oui, oui, j'essaie de ne pas y penser.
Ok, alors je vais pas vous forcer à y penser, mais en tout cas, vos atomes seront quelque part, ça c'est ça.
Ça c'est sûr, oui. Alors, bon, ça ce serait pas mal. Si je disparaissais complètement, je ne serais pas malheureux. Je dirais, bon, c'est... Mais si je me trouvais dans un endroit dont je n'ai pas la moindre idée, bon.
Ah oui, vous envisagez un espèce d'endroit terrifiant. Ben,
comme je ne sais rien, je peux rien nier. Comme je ne sais rien.
En tout cas, la disparition totale vous fait moins peur que ça.
Oui, parce que vous n'y êtes plus. Vous n'y pensez plus. Vous n'êtes pas soumis. Si vous n'êtes pas soumis à quelques régimes... comme on pensait au Moyen-Âge, quand on faisait des procès aux moustiques.
Les procès aux moustiques? Je savais les procès des animaux, mais je ne connaissais pas autour des moustiques, les cochons et tout.
Oui, ouais. Les cochons, oui, on leur a fait des procès.
Merci beaucoup, Hubert Reeves.
Je vous en prie.
Un immense merci à Hubert Reeves de nous avoir accueillis chez lui. Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes présentée par Marie Misset. Mixage, Laurie Galigani. Réalisation, coordination et prise de son, Marine Rowe. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts, à nous suivre et à nous écrire sur Twitter, @_vieillebranche, ou alors sur Instagram, @vieillebranchepodcast.
À bientôt dans Vieille Branche.